Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie et restez surtout avec nous pour cette émission d'un jour dans l'histoire consacrée à Louise de Prusse. Alors, de Louise de Prusse, l'historien Heinrich von Treitschke, l'historien allemand, écrivait « Son image, gravée dans le cœur de son peuple, est devenue une force dans l'histoire de la Prusse. Pourtant, elle n'a jamais dépassé d'un pouce les limites que le vieil usage allemand assigne à son sexe. Un mythe, donc sûrement, un paradoxe, visiblement, et certains mythes sont des paradoxes, c'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Paul Blette. Jean-Paul Blette, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien, spécialiste des questions allemandes. C'est pas la première fois que je vous reçois au micro de Canal Académie.
C'est toujours un grand plaisir.
Je renvoie nos auditeurs aux émissions que nous avons enregistrées ensemble. Vous vous intéressez donc depuis plusieurs années à la Prusse. Pourquoi ce personnage qui, on va le voir, n'est pas un personnage primordial dans l'histoire, et vous le dites dès les premières pages de votre ouvrage, ce n'est pas Catherine de Russie, ce n'est pas Marie-Thérèse d'Autriche. Pourquoi avoir fait ce choix de Louise ?
Eh bien, parce que même si effectivement elle n'a pas la dimension que vous venez de dire, elle n'a pas moins une importance réelle dans l'histoire de l'Allemagne, on dira contemporaine, au sens large du mot, dans la mesure où elle a été l'inspiratrice d'un sentiment de résistance à Napoléon. Et au-delà de cet épisode évidemment très important, elle a été une sorte de mère nourricière du nationalisme allemand qui se développe à partir de cette résistance à la France napoléonienne. Et c'est un personnage qui, en Allemagne, est une référence très forte. Beaucoup de villes allemandes comptent une Königin Luise Straße, Königin Luise Platz. Donc, c'est comme en France, nous avons Gambetta, Clémenceau, Thiers, n'est-ce pas ? Elle fait partie de ce panthéon national. Et c'est vrai qu'elle est peu connue en France, en dehors des milieux, disons, napoléoniens, qui s'intéressent à l'histoire de Napoléon et du Premier Empire. Mais il y avait tout de même une sorte de lacune à combler et c'est ce que j'ai souhaité faire.
Alors, je voudrais tout de suite me plonger dans cette histoire et peut-être commencer par un tableau de cette Prusse de la fin du XVIIIe siècle. Je renvoie là encore nos auditeurs à l'émission sur Frédéric II. La Prusse a émergé sur la scène internationale, entre guillemets, grâce à Frédéric II. Et vous réaffirmez dans votre livre que c'est à l'époque, à la fin donc du XVIIIe siècle, la Prusse est l'État le plus moderne d'Europe.
Avant, évidemment, les transformations que la France va connaître du fait de la Révolution. Mais certainement, c'est le pays qui, parmi les monarchies européennes, continentales on dira, parce qu'il faut réserver le cas de l'Angleterre, qui est un cas un peu particulier, mais sur le continent, effectivement, c'est le pays qui a appliqué, sous la férule de Frédéric II, les principes du despotisme éclairé, qui a traduit ces principes dans son administration, qui d'autre part, à la mort de Frédéric, a certainement l'armée la plus performante. Donc disons, ces deux piliers qui vont devenir les piliers fondamentaux de l'État prussien, l'administration et l'armée. Alors c'est vrai que, et ça on va le vérifier en 1806, c'est-à-dire à Iéna, après la mort de Frédéric II, ce système va progressivement se scléroser. C'est-à-dire que le souverain qui succède à Frédéric II, donc Frédéric Guillaume II, ne continue pas sur la lancée. Et donc, il se passe ce qui se passe toujours dans ces cas-là, c'est que effectivement, il y a un phénomène de sclérose. Et cet outil militaire, pour prendre cet exemple qui était le premier d'Europe, eh bien, en 1806, comme il n'a pas évolué, il va s'effondrer face à l'armée française, à l'armée de Napoléon.
Donc la Prusse a ses limites. Je souhaiterais quand même tordre le cou à une idée reçue. Est-ce que la Prusse est un État militaire ? On a la vision du Prussien, nous surtout français, militaire.
Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on comprend sous ce terme d'État militaire. Si on entend par là un État dans lequel la direction politique est décidée et imposée par une caste militaire, alors là, la réponse est certainement non. Ça ne veut pas dire qu'ultérieurement, on ne rencontrera pas ce système. Durant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, ça ne sera plus la Prusse, ça sera l'Allemagne, ça sera l'Empire allemand. Oui, Hindenburg et Ludendorff imposeront une volonté politique. Mais à l'époque où nous sommes, non. Alors, bien sûr, l'armée est un élément essentiel du système, je viens de le dire, mais ça n'implique pas pour autant que les décisions politiques soient prises par cette armée. Les décisions politiques, elles sont prises par le souverain, donc Frédéric II, et puis ensuite ses successeurs.
Alors vous écrivez, Frédéric Guillaume Ier et Frédéric II ont été chacun, avec son style, des hommes d'exception. Il faudrait beaucoup de chance pour que ce scénario se répète durablement. Il y a donc des limites à cette œuvre prussienne ?
Oui, effectivement, on a eu la chance, enfin, la Prusse a eu la chance d'avoir deux souverains qui étaient très différents, sans doute, mais qui mettaient à la réalisation de leurs desseins de grande qualité d'hommes d'État. Et il y a là une continuité qui couvre une grande partie du XVIIIe siècle, ce qui fait que Frédéric II, même s'il est différent de son père, on connaît la relation difficile entre eux, s'appuie sur ce socle. Et à partir de ce socle, va pouvoir continuer. Mais aussi parce qu'il a cette volonté, cette ambition, et puis parce qu'il a des qualités propres, bien sûr. Bon, avec l'héritier, le successeur de Frédéric II, qui est un homme certainement sympathique, Frédéric Guillaume II montre des traits qui le rendent sympathique, mais par ailleurs, il est beaucoup moins tourné vers le travail, il n'est pas absorbé par cette tâche du gouvernement. Et du même coup, eh bien, l'état de la Prusse s'en ressent.
Venons-en à notre personnage, Louise, à cette chère Louise, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas l'appeler ainsi. Elle n'est pas prussienne, elle est originaire du Hanovre.
Elle appartient à la famille de Mecklembourg-Strelitz, qui est une petite famille princière d'Allemagne. Mais effectivement, son père avait des responsabilités politiques dans le royaume de Hanovre. Et elle est née au Hanovre, donc de ce fait-là, elle est hanovrienne. Mais elle appartient à cette famille de Mecklembourg-Strelitz.
Alors vous présentez une jeune fille, Louise l'étourdie, qui apparaît finalement complètement gauche. Et cet aspect, cette absence de culture, vous décrivez ses lacunes orthographiques, etc., ses lacunes d'expression. Finalement, je ne vais pas dire qu'elle va en souffrir, en tous les cas, vous ne le montrez pas, elle ne va pas en souffrir toute sa vie, mais elle va souhaiter les corriger.
Oui, tout à fait. Alors bien sûr, sur le moment, elle n'en a pas conscience, c'est évident. Mais lorsqu'elle va, on peut dire, vieillir, encore qu'on le sache, elle n'atteindra pas un âge canonique.
Oui, parce qu'elle meurt en 1810.
C'est-à-dire à l'âge de 34 ans.
À l'âge de 34 ans.
Bon. Donc, lorsque, en tout cas, elle va devenir adulte, lorsque elle va accéder à des responsabilités comme reine de Prusse, à ce moment-là, elle va prendre conscience, effectivement, des limites, des lacunes de cette éducation dont elle porte la responsabilité, mais dont, au-delà d'elle-même, les responsables de cette éducation portent aussi la responsabilité, parce qu'on n'a certainement pas voulu faire d'elle une sorte de femme savante, c'était certainement pas l'ambition. Et comme, en plus de cela, eh bien, elle était espiègle, étourdie, avait d'autres intérêts, eh bien, le résultat était assez médiocre.
Cela dit, c'est une femme qui a des qualités, elle a des sentiments, la pureté des sentiments. Vous écrivez « souveraine de l'âge romantique ». Et c'est très important, cette idée de romantisme dans la vie de Louise. Elle privilégiera le cœur et les sentiments. C'est ce qui ressort vraiment de cette jeunesse.
Bien sûr, c'est l'élément, je dirais, dominant et un élément qui reste présent et vivant tout au long de sa vie et qui, en grande partie inspire les positions qu'elle adopte sur le terrain politique, bien entendu, et aussi dans la vie privée. C'est une jeune femme qui est, on peut le dire, de son temps, dans la mesure où elle reprend ses grands idéaux. Elle a régulièrement sous sa plume et dans sa bouche le mot « vertu ». On pourrait croire qu'elle a été très marquée par Rousseau. Et après tout, pourquoi pas ? Parce que même si Rousseau n'est pas un auteur qu'on lit abondamment à la cour de Berlin, il n'en demeure pas moins qu'il y a là une influence, une sorte de capillarité, et qui gagne même des milieux auxquels on ne penserait pas immédiatement. Bon, et puis, il y a l'influence du romantisme allemand qui est dans sa période d'enfance, mais qui commence déjà à se manifester à travers un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'œuvres. Et elle va les découvrir, d'ailleurs, sur la fin, l'extrême fin du 18e, au tout début du 19e, précisément au moment où elle prend conscience de ses limites. Et parmi ses lectures, il y a par exemple le poète Schiller, qui n'est peut-être pas exactement un romantique, mais qui n'en développe pas moins tous ces thèmes de la vertu, de la pureté, de la morale, de l'idéal. Et Schiller est son auteur préféré, à la fois le poète et le dramaturge. Ce qui fait que à Berlin, elle assiste régulièrement aux pièces de Schiller qui sont montées.
Vous le dites, c'est une femme qui, au fond, n'est absolument pas préparée au rôle politique qu'elle voudra se donner plus tard.
Non, parce qu'elle n'a pas de formation politique, n'est-ce pas ? Elle n'a pas suivi les cours de l'Institut d'études politiques de Berlin, qui n'existe pas d'ailleurs, c'est une image. Bon, à vrai dire, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de tout à fait exceptionnel. Si nous regardons alors une autre souveraine qui, elle, a gouverné, réellement, je pense à Marie-Thérèse, elle n'a pas du tout été préparée par son père. Donc, ça n'est pas exceptionnel. Mais c'est tout à fait exact. Elle, je dirais, à la limite encore moins, parce qu'on n'a jamais pensé qu'elle jouerait un rôle politique. Même si elle accédait à une fonction importante, et reine de Prusse, c'est une fonction importante, mais une reine de Prusse n'est pas censée participer au gouvernement. Et donc, elle n'a absolument pas reçu une formation adéquate à l'exercice d'un rôle politique. Et pourtant, elle va le jouer.
Alors, quelle va être la nature de l'union, justement, avec la Maison de Prusse ? C'est ce que je vous propose de voir, Jean-Paul Bled, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise ? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission libre écoute et libre téléchargement.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois l'historien Jean-Paul Bled, auteur d'une biographie, La Reine Louise de Prusse, une biographie parue chez votre éditeur aux éditions Fayard. Donc la reine Louise de Prusse, une femme contre Napoléon. Alors nous avons tenté de présenter ce personnage qui est un personnage qui reste jeune tout au long de sa vie, hein, parce qu'elle va mourir à 34 ans et la jeunesse c'est normalement jusqu'à l'âge du Christ, 33 ans. Et nous en étions restés à la rencontre avec la maison de Prusse. Alors bien évidemment, on se marie d'abord. Et on aime ensuite à cette époque.
Tout à fait l'ordre des choses. Et d'ailleurs, j'ajouterais, on n'aime pas toujours. Il arrive qu'on n'aime pas. Bon, en l'occurrence, elle aime. Et son mari l'aime. Donc, de ce point de vue-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas si on peut parler de coup de foudre. Le mot est peut-être, serait peut-être trop fort. Mais c'est sans doute progressif. Mais en tout cas, on arrive à ce résultat qu'il y a un amour partagé et un amour qui va durer jusqu'à la mort de Louise. Et en ce qui concerne son mari, on peut dire au-delà. C'est très important parce que ça a aussi des conséquences sur le plan politique, dans le sens où Louise, avant même qu'elle ne cherche à jouer un rôle politique, comme on le verra face à Napoléon, se sent des obligations, je dirais, de type politique envers son mari. Ça veut dire, par exemple, que lorsque celui-ci se rend à Königsberg pour prêter serment devant la Diète de la Prusse orientale, eh bien, elle l'accompagne. Et elle l'accompagne parce qu'elle a compris qu'il avait besoin d'elle. Et elle le fait alors qu'elle est au 8e mois d'une grossesse, donc dans un moment particulièrement délicat.
La naissance se passera mal, hein, c'est bien...
Oui, absolument. Donc on voit des conséquences qu'a ce dévouement, cette abnégation. Donc elle l'assiste, sachant, je le répète, qu'il a besoin d'elle. Parce que c'est un personnage... Bon, je vais peut-être durcir le trait, mais il est un peu fade et falot. C'est quelqu'un qui est très indécis, c'est vraiment un trait de caractère qui est constant, que l'on retrouve tout au long dans la partie de son existence couverte par le livre. Et de cela, elle se rend compte rapidement. Donc, ça veut dire qu'il a besoin d'elle.
Et effectivement, elle s'en rend compte et elle veut l'aider. Et c'est pour cette raison qu'il faut, j'allais dire, tempérer un peu notre jugement sévère tout à l'heure sur le fait qu'intellectuellement, elle n'a pas cette culture politique. En revanche, elle a, j'allais dire, une intelligence instinctive. Elle sent les choses.
Absolument. Elle a tout à fait cette intuition. Et on peut effectivement parler, sur ce terrain-là, d'intelligence. Et de ce fait... Elle assiste son époux en plusieurs occasions. Alors là, évidemment, elle, si l'on peut dire, ne transgresse pas le rôle qui est le sien, elle n'intervient pas sur le terrain politique, mais elle l'encourage, elle le fortifie en quelque sorte. Et c'est déjà un point extrêmement important. Alors bien sûr, ultérieurement, son rôle va s'amplifier et elle va franchir, si je peux dire, le Rubicon.
Mais... Justement, ce Rubicon, elle le franchit et elle apparaît comme une, j'allais dire, intransigeante par rapport à la Révolution française et par rapport à son fils Napoléon.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est une position sur laquelle elle ne varie jamais. Une position qui est la sienne depuis le début. Depuis le début, puisque alors qu'elle a seulement 17 ans, c'est l'époque où les armées révolutionnaires, c'est après Valmy, pénètrent en Allemagne et on vient mettre le siège devant Mayence. Et à ce moment-là, Louise, avec sa famille, habite relativement à proximité. Et alors, dans des correspondances, elle évoque, en parlant des Français, ces bandes de brigands, ces barbares, etc. Et ces termes qu'elle applique aux Français de la Révolution... Elle va les appliquer ultérieurement, et bien d'autres d'ailleurs, à Napoléon. Donc il y a une continuité sur ce terrain, ce qui, évidemment, la place très clairement dans le camp anti-français et le camp hostile à la Révolution, Napoléon étant le continuateur de la Révolution au nid.
Alors son souci est quand même qu'elle essaie, ou non pas elle essaie, elle met dans la politique des sentiments, ou elle croit voir même des sentiments, et ceci est très net avec un personnage qui domine aussi son temps, c'est l'empereur de Russie, Alexandre.
Exactement. C'est une relation évidemment complexe. Il est évident qu'elle a eu pour lui un sentiment amoureux, mais nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, nous sommes dans l'âge du romantisme, et c'est un amour romantique, dans le sens d'un amour éthéré. À aucun moment, elle n'a envisagé d'avoir une relation charnelle avec lui. Lui non plus d'ailleurs, parce qu'il était peut-être séduit par Louise, mais il savait les conséquences que ça pourrait en avoir. Donc à aucun moment, il n'y a songé. Mais elle l'idéalise. Elle l'idéalise, ce qui est aussi pour elle... être dans ce registre du romantisme dont nous parlons depuis le début de l'émission. Donc elle l'idéalise, elle le place en quelque sorte sur un pinacle et de ce fait, comme elle l'idéalise, elle pense que ce grand homme eh bien, mène une politique qui est commandée, inspirée par les sentiments, comme elle. Or, évidemment, les choses sont plus complexes. Et c'est le moins qu'on puisse dire que le tsar est motivé par des sentiments qui sont politiques, par des motivations qui sont politique. Et alors là, on le voit bien. Certes, on franchit le temps et l'espace, mais en 1807, lorsque arrive la catastrophe de Friedland, voilà qu'Alexandre décide de traiter ou accepte de traiter avec Napoléon. Et pour elle, c'est incompréhensible au regard des sentiments. Au regard des sentiments, Alexandre ne peut avoir qu'une seule attitude, c'est de refuser de traiter et de continuer la lutte. Or, Alexandre, évidemment, considère qu'après Friedland, après Austerlitz et maintenant Friedland, eh bien, le temps est venu de traiter. Et ça, elle ne le comprend pas. Au regard des sentiments, effectivement, c'est incompréhensible.
Et cette réalité, là, on avance dans le temps, sera très nette en 1809, je crois, ou 1900, en 1810, quand elle se rendra elle-même en Russie pendant 3 semaines,
oui.
Invitée par Alexandre, alors qu'ils sont, si vous me permettez l'expression, complètement au fond du trou, retirés dans l'extrémité de la Prusse de l'Est.
Tout à fait, puisque après le premier désastre pour la Prusse, c'est-à-dire Iéna et Auerstedt, ça c'est une date fondamentale, c'est cet État s'effondre, l'État de Frédéric II s'effondre avec ces deux défaites militaires, coup sur coup, le même jour d'ailleurs. Et à la suite de ces défaites, la famille royale n'a d'autre recours que de fuir à l'extrémité du royaume, Königsberg, et ensuite même au-delà de Königsberg, jusqu'à Memel. Memel qui est actuellement en Lituanie, n'est-ce pas, qui se trouvait à la pointe extrême de la Prusse à cette époque, c'est-à-dire à la frontière russe.
Il ne pouvait rentrer à Berlin.
Il ne pouvait rentrer à Berlin, d'abord dans un premier temps parce que la guerre continuait, et mais ensuite, lorsque la paix est signée à Tilsit, entre la France et la Prusse, eh bien, le retour du couple royal à Berlin est suspendu au bon vouloir de Napoléon. C'est Napoléon qui décidera le moment où le couple pourra rentrer. Et il rentrera effectivement en 1809. Donc, il y a ce voyage entrepris à Saint-Pétersbourg, à l'invitation du tsar. C'est un voyage évidemment à caractère politique. Et là, par rapport à cette relation idéale, à cette vision idéale que Louise avait d'Alexandre, eh bien, c'est, on peut le dire, la fin d'un rêve. Elle découvre que cet homme pour qui elle avait un sentiment presque de vénération, eh bien, au fond, est un homme ordinaire. Elle en est profondément déçue et elle rentre avec une blessure au cœur de ce séjour à Saint-Pétersbourg.
Alors, je voudrais quand même revenir, au-delà de cette question des sentiments, sur cette notion d'intransigeance. On fait peser sur les épaules de Louise le fait qu'elle soit ce qu'on appellerait un va-t-en-guerre. Est-ce que, d'abord, cette idée est vraie? Et deuxièmement, quand a lieu la guerre, est-ce qu'il n'est déjà pas trop tard pour la Prusse qui, à cause de l'indécision précisément de Frédéric Guillaume, son mari, eh bien, n'est pas intervenue jusqu'à présent? Et elle intervient seule et elle se fait battre.
Oui, bien sûr, il y a tous ces éléments que vous venez de rappeler. La Prusse aurait pu intervenir en 1805, c'est-à-dire se joindre réellement à la coalition austro-russe. Et dans cette hypothèse, évidemment, les choses auraient peut-être pris un cours différent. Bon, évidemment, nous n'en saurons jamais rien. Mais en tout cas, on est obligé de poser la question. Or, au lieu de respecter les engagements qu'il a pris envers le tsar Alexandre qui est venu à Berlin, juste avant la bataille d'Austerlitz, un mois avant. Donc, au lieu de respecter ses engagements qui faisaient de la Prusse un allié, bon, il tergiverse. Et il envoie son ministre des Affaires étrangères à Haugwitz auprès de Napoléon. Et celui-ci a pour instruction d'y aller lentement, n'est-ce pas, de prendre son temps pour arriver. En d'autres termes, il s'agit de savoir le tour que prendra la bataille. Et en d'autres termes, si Napoléon était battu à ce moment-là à Haugwitz, ferait connaître à Napoléon qu'il est aux côtés de la Russie et de l'Autriche et donc se joint réellement et militairement à la coalition. Et puis, si c'est le contraire, à ce moment-là, éventuellement, on félicitera Napoléon de sa victoire. Donc, il est clair que là, c'est un résultat, un produit de cette indécision. Et du même coup, la Prusse a sans doute laissé passer une occasion. Parce que, comme vous le disiez à l'instant, lorsqu'on en vient, on en arrive un an plus tard, la Russie, certes, est toujours en guerre. L'Autriche ne l'est plus, elle est sortie de la guerre. Mais la Russie est encore en guerre, mais son armée est très loin. Donc, la Prusse va être toute seule. Et là, eh bien, il arrive ce qu'on a dit tout à l'heure, l'effondrement. C'est d'ailleurs une guerre, je le précise, que ne souhaitait pas Napoléon. Napoléon, c'est un point qui, à mon avis, qu'il est important de souligner, aurait souhaité s'allier avec la Prusse. Et à plusieurs reprises, il a fait des ouvertures en direction de la Prusse. Et à chaque fois, il s'est heurté à cette indécision de Frédéric Guillaume III, qui, d'un côté, il y avait deux éléments. D'un côté, c'était un pacifique, sinon un pacifiste. Pacifiste, le terme serait peut-être anachronique, mais pacifique sûrement. Et donc, il hésitait à sortir du statut de neutralité dans laquelle se trouvait la Prusse depuis 1795. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, en même temps qu'il y avait Napoléon qui souhaitait attirer la Prusse dans une alliance, de l'autre côté, il y avait la Russie qui souhaitait la même chose. Mais évidemment, pas pour faire une alliance à trois. Donc, là encore, il était indécis. Et à chaque fois, eh bien, il s'est dérobé lorsque Napoléon a donc fait ses ouvertures. À chaque fois, il se dérobe. Et à la fin des fins, cela explique d'abord que cette guerre, Napoléon ne l'ait pas souhaitée. Et deuxièmement, ça explique ensuite, après Iéna et à la fin des fins, Friedland, en Gatilsit, le traitement que Napoléon a réservé à la Prusse, c'est-à-dire, en fait, pour une bonne part, un démantèlement. La Prusse a perdu, à Tilsit, la moitié de son territoire.
Il reste cette question, hein. Louise de Prusse, oui ou non, a-t-elle, enfin, peut-on la considérer comme une va-t-en-guerre et quel a été son rôle dans le déclenchement? C'est ce que je vous propose de voir, Jean-Paul Blaine, après cette seconde pause. À tout de suite.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la reine Louise de Prusse, une femme contre Napoléon, tel est le sous-titre de votre livre, Jean-Paul Blaine, aux éditions Fayard. Nous avons laissé nos auditeurs sur une question. Peut-on considérer que Louise de Prusse fut à la tête de ce fameux parti intransigeant qui souhaitait l'affrontement avec Napoléon? Alors, sur une guerre, encore une fois, on va rappeler que ne souhaitait pas Napoléon.
On peut partager cette affaire en deux temps. Le premier temps avant Iéna et le second temps après Iéna. Le premier temps, elle est certainement sur cette position de résistance à Napoléon, ce qui veut dire en d'autres termes la guerre. Alors, bien entendu, elle n'est pas seule sur cette position. Il y a tout un parti qui s'est constitué, qui s'est renforcé au fil du temps et qui est devenu, on peut le dire, début de 1806, qui est devenu majoritaire. Je veux parler majoritaire dans les milieux responsables, évidemment. L'opinion publique, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans les cercles militaires, les cercles politiques, diplomatiques, il y a maintenant une majorité favorable à l'entrée en guerre. Et Louise est à l'unisson de ce parti. Alors, est-ce qu'elle en est le chef? Est-ce qu'on peut véritablement parler d'un parti de Louise? Certains l'ont fait. C'est peut-être pousser les choses un peu loin, parce que à ce moment-là, elle ne se met pas, en avant, si vous voulez, par rapport à d'autres. Elle encourage son mari, elle connaît, là, encore une fois, ses lacunes, ses faiblesses, et donc elle essaye de lui insuffler de l'énergie, du courage pour franchir le pas. Après Yéna, je pense que son rôle a été encore plus important, probablement décisif. Parce qu'après Yéna, Napoléon fait des offres de paix à Frédéric Guillaume III. Bon, des offres de paix qui sont sévères, sans doute, mais qui sont moins que celles que la Prusse aura à subir plus tard à Tilsit. Et le premier mouvement de Frédéric Guillaume III est d'accepter. Donc cela voudrait dire, évidemment, dans ce cas, que la paix, une paix bilatérale, serait signée entre la France et la Prusse, aux conditions du vainqueur, bien sûr, donc Napoléon. Et ça voudrait dire aussi que la Prusse se séparerait de la Russie, qui est toujours en guerre, même si les troupes russes sont très loin. Elles sont à la frontière de la Prusse et de la Russie, donc elles sont très loin. Donc c'est le premier mouvement du roi, et il y a tout un parti là, important maintenant, qui considère qu'il n'y a pas d'autre solution, étant donné cet effondrement dont on a parlé tout à l'heure. La Prusse n'a presque plus d'armée, elle n'a plus qu'un corps d'armée, c'est tout. Bon, tout le reste s'est volatilisé, s'est rendu. Et si finalement Frédéric change d'avis, c'est sous la pression de Louise. Et là, donc, elle a un rôle majeur. Et elle lui met en avant que, et on en revient au sentiment, il ne peut pas se conduire comme cela vis-à-vis de son ami, le tsar. Il y a entre eux une amitié très forte, presque à caractère religieux, sacré. Et donc, il ne peut pas faillir à cette amitié. Et elle va emporter la décision de Frédéric Guillaume III, donc de son époux, qui, après avoir, dans un premier temps, choisi de traiter, eh bien, fait un virage à 180 degrés et rejoint le parti de la guerre.
La guerre reprend. Bon, nous passons un peu les mois. Nous arrivons à Tilsit, où là, Alexandre a bien évidemment un rôle. Il doit défendre les intérêts de la Russie. Parfois, ses intérêts s'opposent à ceux de la Prusse. Pourtant, Alexandre a évité le pire, que le roi de Prusse soit tout simplement renversé, chose qu'aurait pu très bien faire Napoléon.
Oui, c'était tout à fait envisageable. Alors, évidemment, on l'a dit, le sort réservé à la Prusse a été très dur, mais il aurait pu être encore plus dur. On aurait pu envisager de démanteler encore davantage la Prusse, et puis, encore pire que cela, on aurait pu envisager de détrôner Frédéric Guillaume III et de mettre à sa place un prince, un autre prince, et peut-être un prince français. Toutes les options étaient sur la table. Et là, quoi qu'en ait pensé Louise, qui évidemment ne retrouve pas dans l'Alexandre de Tilsit l'image qu'elle avait de lui. Donc, quoi qu'en ait pensé Louise, Alexandre a rendu un service à la Prusse, c'est tout à fait exact.
Alors, pourquoi Louise intervient? On l'a fait intervenir? On pense qu'elle peut avoir véritablement un rôle politique?
Oui, c'est en quelque sorte l'arme de dernier recours, en quelque sorte. C'est pas elle qui a eu l'idée. Parce que pour elle, c'était presque la pire des choses que d'avoir à se trouver face à face avec ce monstre, puisque c'est ainsi qu'elle voit Napoléon, n'est-ce pas? Bon, l'idée en est venue un homme en qui elle avait une très très grande confiance, qui était Hardenberg. Hardenberg, qui est un des ministres qui va œuvrer à la restauration de la Prusse. Il y avait donc un excellent rapport entre Louise et Hardenberg. Et lorsque Hardenberg en vient à penser qu'il y a là peut-être la dernière carte à jouer, elle donne son accord. Son mari, d'ailleurs, est sur la même position, c'est-à-dire qu'il suit Hardenberg. L'idée ne vient pas de lui. Il n'aurait pas été capable, je dirais. Mais Hardenberg peut concevoir cette idée, donc Hardenberg et Frédéric Guillaume interviennent auprès de Louise et Louise se rend à leur souhait et donc accepte de rencontrer Napoléon. Quel est l'objectif? Bien, l'objectif, c'est évident, c'est d'atténuer, d'obtenir une atténuation du sort réservé par Napoléon à la Prusse. Est-ce qu'il y avait une chance réelle que les choses aillent dans ce sens? Je crois que non. Napoléon était très désireux de rencontrer Louise. Il en avait évidemment entendu parler. Il n'était pas forcément toujours très bien conduit avec elle, puisque les Français avaient trouvé à Charlottenbourg des correspondances entre Louise et Alexandre, et cette correspondance avait été publiée dans le Moniteur impérial. Bon, donc il y avait de ce point de vue-là un contentieux entre eux, mais il la respectait parce qu'il avait bien compris que c'était une femme qui, derrière ses sentiments, était une femme d'énergie. Donc, de ce point de vue-là, elle l'intéressait. Mais il n'était pas prêt à lui céder sur le terrain politique. Donc, ce qui veut dire que cette idée qui est venue à Hardenberg et cautionnée par Frédéric était une fausse bonne idée. Et les choses sont bien passées de la sorte. Alors, c'est la fameuse rencontre qui n'a pas de témoin, qui dure une heure dans une maison de Tilsit. Elle a mis ses plus beaux atours, elle a du charme, évidemment, c'est une jolie femme, belle même, on peut le dire, et tous les portraits en témoignent, il y a des portraits qui ne sont pas retouchés, si vous voulez, donc qui reflètent réellement sa beauté. Bon, elle essaye, dans les limites de la bienséance, bien entendu, elle essaye d'en jouer. Napoléon est heureux de la rencontrer, mais il ne tombe pas dans le piège. Il ne tombe pas dans le piège. Alors, il y a un autre épisode qui est connu parce que, après cette fameuse rencontre qui dure une heure, et qui d'ailleurs est interrompue
par le mari.
Par le mari. Ça démontre une fois de plus les maladresses, la gaucherie de ce personnage. Il ne peut pas supporter qu'elle soit aussi longtemps dans la même pièce que Napoléon. Et il intervient. Alors après, elle lui reprochera d'avoir interrompu une négociation qu'elle était sur le point de remporter. Bon, ça, je crois que c'est une reconstruction des choses. Mais enfin, en tout cas, il a une fois de plus fait la démonstration de ses lacunes. Et alors, on se retrouve, et là, pas en tête à tête, à un dîner qui a lieu le même soir. Et c'est là que se situe le fameux épisode de la rose. Napoléon, galant homme, offre une rose à Louise et elle lui répond en minaudant « Oui, mais avec Magdebourg ». Magdebourg parce que, effectivement, Napoléon voulait retirer Magdebourg à la Prusse et c'était un des enjeux de cette fameuse négociation que Louise était censée mener. Donc, en minaudant, elle ajoute cette phrase « Oui, mais avec Magdebourg ». Mais à l'arrivée, eh bien, Magdebourg tombera comme le reste.
Mais on sent une sensibilité politique plus aiguisée, pour le coup. On la voit d'ailleurs évoluer par rapport à Napoléon. Elle est moins dure avec le temps qu'elle ne l'était avant, où là, vous la présentez même parfois comme une véritable harpie qui peste contre l'entourage royal, qui n'est pas à la hauteur. Et surtout, à un moment, son mari pense abdiquer. Et elle est là pour lui dire non, tu dois rester.
Eh bien, là, on retrouve cette qualité que Napoléon lui reconnaissait et pour laquelle il avait sans doute pour elle un sentiment d'admiration, c'est-à-dire l'énergie. Et donc, c'est vrai, après Tilsit, Frédéric Guillaume est taraudé par le doute, hein, une fois de plus d'ailleurs, mais enfin là, nous sommes dans des circonstances dramatiques et il envisage d'abdiquer et c'est elle qui, si je peux dire, le tient à bras le corps pour qu'il n'en fasse rien. Et effectivement, bon, après ces moments de trouble, de désarroi, il renonce à ce projet. Donc, elle a à nouveau un rôle important, dans la coulisse peut-être, mais important sûrement.
Jean-Paul Bled, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être est-ce là le paradoxe de ce personnage qui n'était pas présent politiquement, mais qui peu à peu s'affirme. Et elle s'affirme devant un personnage que vous disiez tout à l'heure, Fallot. Et c'est pour cette raison qu'elle créera le mythe, enfin que le mythe sera créé, parce qu'au fond, elle sera comme une représentant la flamme de la Prusse devant l'incapacité politique de son mari.
Alors, il y a sûrement de cela, même si bien sûr, la version officielle que vous avez rappelée au début avec cette citation de Treitschke, une citation qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre le rôle où on voulait l'enfermer. C'est-à-dire, elle ne devait pas avoir un rôle politique. Une reine de Prusse n'a pas de rôle politique. Le rôle politique, il est tenu par le roi. Bon, et c'est ce que voulait dire Treitschke. Mais dans la réalité, évidemment, elle a eu un rôle politique. Et c'est précisément pour cette raison qu'il y a une sorte de légende qui va se former autour d'elle. Et une légende, pour une grande partie, appuyée sur des réalités. Donc, une légende, un mythe qui va durer, je dirais, jusqu'à l'avènement du Troisième Reich. Tout au long de cette période, donc ça fait plus d'un siècle, bien sûr, eh bien, elle apparaît comme une icône prussienne et, au-delà, plus tard, allemande. Lorsque Oda de la Prusse est formée l'Empire allemand, elle est récupérée par le nationalisme allemand et on le voit bien par exemple à l'époque de la République de Weimar où elle est mise en avant par les partis de droite, je n'ai pas dit d'extrême droite, je ne parle pas là du national-socialisme, c'est autre chose, mais par les partis de droite, partis nationaux conservateurs, eh bien qui la mettent en avant, comme ils mettent en avant d'ailleurs Frédéric II ou Bismarck. On a par exemple des affiches électorales avec l'effigie de Louise et demandant aux Allemands de voter pour ce parti national conservateur. Tout cela fait bien d'elle un personnage qui a traversé le temps et dans lequel beaucoup d'Allemands se sont reconnus comme une sorte de Madone laïque, en quelque sorte.
Eh bien, c'est sur ces mots, Jean-Paul Blette, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'être venu.
Et c'est moi qui vous remercie.
Au micro de Canal Académie. Je rappelle les références de votre ouvrage, La reine Louise de Prusse, une femme contre Napoléon, paru aux éditions Fayard. Merci, restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.